This is Radio Free Europe.
9 minutos
Radio
en Colombia.
Halia Radio Rosana di Paris.
Madonna Radio Globo.
From CNN Radio 7.
La Radio Dacia.
O Brasil quer seguir o
jogo. Turquia, foto!
Slava, Россия.
Rebonsoir et bienvenue. Un jour dans le monde aujourd'hui au Kenya, après l'effroyable tuerie de l'université de Garissa, Eric Valmire dans Partout ailleurs. Le rendez-vous numérique du lundi se fera en direct de Washington avec notre correspondant Frédéric Carbone. À 18h55, c'est l'édito d'Anthony Bélanger, toujours aux États-Unis, sur le développement de ce qu'on pourrait appeler là-bas le commerce homophobe. Mais tout de suite, petit tour du monde de l'audiovisuel public.
France Inter, un jour dans le monde, Nicolas Demorand.
Vous le savez, une partie des personnels de Radio France et donc de France Inter sont en grève depuis 19 jours. Le préavis court jusqu'à demain et mercredi, lors d'un comité central d'entreprise, le PDG de Radio France, Mathieu Gallet, présentera les grands axes de son projet stratégique. La semaine dernière, la Cour des comptes publiait un rapport vinaigré sur Radio France, pointant de nombreux dysfonctionnements au sein de notre ronde maison et une coupable légèreté de notre actionnaire et bailleur de fonds qui s'appelle La République. Alors pour comprendre la spécificité de l'audiovisuel public, nous allons, grâce à nos correspondants, comparer Radio France à d'autres groupes publics. Étape ce soir à Londres, Berlin, Bruxelles, Copenhague, Montréal et ici en studio à Paris, Cécile Méadel est notre invitée. Bonsoir.
Bonsoir.
Et merci d'être au micro de France Inter. Vous êtes professeure de sociologie à l'École des Mines, historienne, sociologue des médias. Avant d'entamer le périple dont je donnais rapidement les quelques étapes, dites-nous d'où vient historiquement l'idée de service public de la radio pour commencer, de service public audiovisuel ensuite.
En fait, d'une façon paradoxale, l'idée de service public ne vient pas des contenus, de l'idée qu'il faudrait mettre la culture à la portée de tous, mais plutôt de la technique, puisque la radio, la TSF, est née dans l'orbite du télégraphe sans fil. Et là, on a donné la tutelle des radios qui étaient dites publiques au ministère des PTT. C'est dire que ce n'était pas du tout l'idée qu'il fallait faire de la culture, c'était l'idée qu'il fallait mettre des moyens de communication à la portée de tout le monde et que voilà, l'État devait prendre sa part de la charge. Et donc, jusqu'en 1945, on a eu des radios qui étaient publiques et des radios qui étaient privées dans un monde qui a cohabité assez bien pendant 25 ans jusqu'au lendemain de la guerre.
Voilà, alors, est-ce qu'entre 1920 et 1945, il y a déjà une très forte différence entre les radios dites publiques et les autres privées?
Non, alors, il y a à l'origine pas du tout de différence, parce qu'en fait, c'est des radios d'amateurs, c'est des radios de passionnés, de gens qui découvrent ce moyen de communication qu'on ne connaît pas, qui se passionnent pour lui, qui ont envie d'en faire. Tantôt, eh ben, ils vont s'allier avec le ministère des PTT, ils vont devenir publics, et tantôt, eh bien, ils vont faire ça entre eux, avec un facteur d'instrument, avec un petit industriel de la radio, et donc ils vont s'appeler privés. Mais alors, plus on va avancer vers la guerre, plus ça va commencer à rapporter de l'argent, parce qu'il va y avoir de la publicité sur les deux, d'ailleurs, sur les publics comme sur les privés, assez vite. Plus ça va rapporter de l'argent, les publicitaires vont arriver, en particulier Marcel Blanchet, Radio Luxembourg va se créer, etc. Donc à la fin de la période, c'est-à-dire à la veille de la guerre de 39, là on commence à avoir des programmes dans certaines radios privées, dans quelques rares radios privées très connues comme Radio Cité, Radio Luxembourg, etc. Là qui sont des programmes plus rapides, plus toniques et surtout qui cherchent plus à plaire à leur public, donc en faisant des choses plus légères et par exemple en évitant ce qu'on appelait la grande avec 4 R, la grande musique ou les causeries, parce que la radio abuse et use des causeries.
Alors l'autre grande étape, on y va à grande foulée, hein. L'autre grande étape, c'est la libéralisation, l'ouverture, en fait, le moment où le monopole d'État éclate, et là on est fin 70 pour les pirates, et ensuite ça devient légal.
En plus, le monopole français, ça a toujours été en matière de radio, c'était pas pareil pour la télévision, mais ça a toujours été un peu une ambiguïté, parce que il y avait quand même Europe 1, Radio Luxembourg, il y avait des radios dans le sud, donc il y avait quand même 3-4 radios qui étaient contrôlées par l'État en sous-main, mais qui étaient quand même un peu plus indépendantes. Mais bon, fin des années 70, là ça éclate, il y a une véritable volonté de non seulement d'ouvrir les antennes d'un point de vue politique, mais aussi de les ouvrir d'un point de vue contenu, culturel, musical, musicales, etc. Il y a eu Radio Caroline, etc. Donc là, il y a une véritable envie de se saisir de la radio et d'en faire quelque chose de différent. Ce qui est rigolo, c'est qu'en 1968, alors qu'on a exploré à peu près tous les moyens de communication possibles et imaginables, la radio, alors qu'il y avait la radio Sorbonne, dont les manifestants ont pu se saisir, ils n'ont absolument pas été intéressés par la radio. Mmh. Et là, fin des années 70, tout d'un coup, on passe de on pouvait écouter une demi-douzaine de radios dans chaque coin de France. Et là, tout d'un coup, on va passer à 1500, 1800, 2000 radios avec des formats très, très différents. Et ça, ça va forcément remettre en cause non seulement les radios historiques, mais surtout les radios du service public.
Alors, remettre en cause de quelle manière ? Est-ce que ça simplifie leur tâche d'une certaine façon ?
Non,
ça la complique. Comment, face à ce paysage qui va se bouleverser, évidemment, avec une offre démultipliée, comment l'audiovisuel public réagit ? Là, je parle vraiment spécifiquement de la radio.
L'audiovisuel public, il est d'une certaine manière, il va se trouver confronté avec une offre qui va être directement concurrente de ce qu'il propose. C'est-à-dire qu'il n'y avait que lui qui proposait, par exemple, une radio de musique classique. Il n'y avait que lui qui proposait des radios locales, qui faisaient de l'information locale sur place. Et là, tout d'un coup, il y a des tas de gens qui vont venir le mettre au défi, apporter plus d'air, s'ouvrir à d'autres musiques, et puis ouvrir des antennes en nombre considérable. Mmh. Alors, c'est la même chose à Europe et RTL. Pendant quelques années, elle se cherche. Europe court après les radios locales en essayant de les imiter sans vraiment bien y arriver, etc. Donc elles doivent redéfinir ce qui va être leur spécificité. Et finalement, ça s'est fait relativement sainement dans les radios du service public qui ont retrouvé une place tout à fait honorable parce que finalement, le modèle de la radio généraliste France Inter est resté très apprécié des Français puisqu'on est quand même un des pays dans lequel on écoute beaucoup la radio.
Cécile Adèle, qu'est-ce qui fait la spécificité du service public de la radio ? Comment est-ce qu'on pourrait le définir ? On peut le définir par son mode de financement, on peut le définir par son rapport à la publicité, on peut le définir par l'ampleur de sa couverture, donc aussi d'une manière technique, technologique, mais ça ne suffit pas, ça n'épuise pas le sujet.
Alors, pendant un certain temps, l'idée, c'était que la radio du service public, c'est l'idée, par exemple, de Léon Blum, c'est la radio qui va être indépendante des puissances de l'argent. Et c'est particulièrement vrai quand vous avez en face de vous des radios qui sont entre les mains de grands groupes capitalistes. C'est beaucoup moins vrai aujourd'hui. Dès lors qu'il y a explosion des radios, donc la question de l'indépendance financière n'est pas forcément extrêmement importante. L'indépendance politique, c'est un combat permanent pour les radios de service public. C'est-à-dire que je crois que maintenant, c'est rentré quand même dans les mœurs par rapport à ce qui se passait du temps du général de Gaulle, mais ça ne veut pas dire que ça ne continue pas à être une espèce de bataille, de défi de tous les jours et face à tous les pouvoirs. On pense tout de suite au pouvoir politique, mais il y a plein d'autres pouvoirs qui agissent sur France Inter et face auxquels il doit se battre, le pouvoir des syndicats, le pouvoir des pensées toutes faites, le pouvoir de la banalité, etc. Donc c'est assez difficile C'est pas non plus ces programmes, puisque ces programmes, finalement, on peut dire qu'il y a d'autres stations qui essayent de le faire. Alors, c'est un peu la conjonction de tout ça, mais c'est surtout une espèce de tension permanente pour faire quelque chose qui essaye de se définir en marchant, c'est-à-dire quelque chose qui se veut, et le slogan de France Inter était quand même excellent, c'est-à-dire quelque chose qui se veut différent, donc qui a, lui, une certaine exploration de ce que c'est que le contenu, de ce que c'est que l'information, de ce que c'est que la musique, etc. Une certaine exploration, pas faire exactement ce que l'audimètre vous indique, ce que les chiffres de vente vous indiquent, essayez d'explorer, essayez d'aller voir ailleurs.
Donc une politique de l'offre.
C'est pas toujours réussi, mais c'est toujours une tension. C'est-à-dire que le service public, il est dans son rôle quand il est sans arrêt en train d'essayer d'accomplir ce programme très difficile et même très difficile à formuler.
Allez, on démarre notre périple avec la Grande-Bretagne où l'audiovisuel public est regroupé dans une société unique, la célébrissime et historique BBC, British Broadcasting Corporation. C'est l'un des groupes audiovisuels les plus importants au monde. Il est composé de 8 chaînes de télévision et de 54 radios. Malgré tout, la BBC est contrainte à l'austérité depuis plusieurs années et ses dirigeants ont choisi de mettre en œuvre un plan de réforme absolument drastique jusqu'en 2010. À Londres, Muriel Delcroix, RFI pour France Inter.
This is BBC World News. I'm Jonathan Charles, kept hidden for almost two decades and forced to bear children.
La cure d'amaigrissement de celle qu'on appelle souvent la Bib se poursuit inexorablement depuis 2007. Le nombre de ses salariés est passé de 26 000 il y a 8 ans à 20 000 aujourd'hui. En 2010, le budget du service internet BBC Online, le plus fréquenté d'Europe, a été réduit de 25%. Et quelques mois plus tard, le prestigieux World Service à destination de l'étranger a annoncé la disparition de 25% de ses effectifs et de nombreuses langues. Mais c'est en 2011 que des coupes claires ont été décidées pour faire face au gel de la redevance imposée jusqu'en 2016 par le gouvernement conservateur de David Cameron. Une redevance qui assure pourtant l'essentiel des revenus de la BBC avec une manne de 4,5 milliards d'euros par an. Le gouvernement a dans le même temps demandé à la BBC de financer elle-même désormais le World Service qui dépendait auparavant du ministère des Affaires étrangères. Le groupe, dont les dépenses s'élevaient en 2011 à 6 milliards d'euros, s'efforce donc actuellement de les réduire de 777 millions par an. Aucune chaîne de radio ni de télévision n'a été supprimée, mais aucun secteur d'activité n'est épargné, avec des mutualisations de moyens, des coupes dans les programmes de divertissement, une réduction de 15% du budget sport et des délocalisations à Manchester, Cardiff et Glasgow. La BBC a aussi vendu nombre de ses studios et regroupé beaucoup de rédactions et de services au sein du tout nouveau bâtiment Broadcasting House en plein centre de Londres. Quand cette réforme draconienne a été annoncée, beaucoup ont vu dans cette autoflagellation un geste stratégique. Les dirigeants de la BBC voulaient montrer que le groupe pouvait réduire son train de vie sans intervention politique extérieure et voulaient répondre ainsi à ses concurrents et au parti conservateur qui lui reprochaient une concurrence déloyale. C'est d'ailleurs dans le même esprit que la BBC, accusée de gestion dispendieuse, s'est mise à publier régulièrement un relevé très détaillé des plus hauts salaires. Si cette réforme sévère n'a pas entraîné de grève massive, les syndicats ont néanmoins reproché à la direction de faire le sale boulot à la place d'un gouvernement qui ne cache pas son peu d'affection pour la radio-télévision publique. Ils voudraient voir le contrat sur la redevance renégocié et un vrai débat public engagé sur le financement d'une institution à laquelle les Britanniques, même s'ils ne l'appellent plus Auntie, Tati, continuent à être malgré tout extrêmement attachés.
Voilà pour cette correspondance de Muriel Delcroix à Londres. Réaction, Cécile Méadel.
Le gel de la redevance, ça attire forcément des réflexions sur ce qui se passe aussi en France. C'est-à-dire que c'est vrai que tant que le pouvoir politique décide de ne pas augmenter la redevance, au moins à proportion de l'augmentation du coût de la vie, il met son audiovisuel public dans une situation extrêmement une situation impossible. Donc là, on a le. Alors peut-être que la BBC n'était pas ultra bien géré et que voilà, 26 000 personnes, c'est énorme. Mais il n'empêche qu'il y a quand même un moment où il faut se demander, est-ce que ça fait partie des choses qu'on considère comme étant indispensables à la vie publique que d'avoir un service d'information, un service de loisirs, un service culturel de qualité, ou est-ce qu'on considère qu'après tout, c'est la loi du marché qui doit faire la règle
et à cette question, vous répondez quoi?
Moi, je considère qu'il y a le rôle de l'État de fournir aussi un service de qualité, parce que sinon ça veut dire qu'il y a des pans entiers de la culture qui vont finalement être ultra marginalisés. Il y a par exemple des formats radiophoniques qui vont disparaître, qui sont déjà très minoritaires, mais qui sont extrêmement intéressants sur l'exploration du son, sur la fiction, sur les formes d'information un peu particulières, sur des documentaires qui réclament des moyens, etc. Donc tous ces formats-là qui, à mon avis, rajoutent à l'intelligence collective, rajoutent à la connaissance, il faut les financer. Alors, il ne faut pas les financer ad libitum. La BBC, avant la guerre, avait
c'est
la caractéristique...
C'est une saignée, là, quand même, hein, oui. Ce qu'on entend. Oui, hein, oui, c'est oui. Moins 25%, des diminutions drastiques de budget, de couverture, de voilure,
oui,
c'est
alors,
incroyable.
On est quand même dans une phase où c'est une transformation encore plus radicale que l'explosion des radios locales, parce que là, ce n'est pas simplement un modèle radiophonique qui est interrogé, c'est l'ensemble du modèle informatif qui vient être interrogé avec le numérique. Donc là, il est normal que la radio, comme la télévision publique, prennent leur part des interrogations et se demandent dans quelle mesure elles doivent se restructurer. Est-ce qu'il faut absolument que la BBC ait un service d'information sur Internet? Moi, je ne sais pas, mais peut-être pas de toute évidence. Ça ne fait peut-être pas partie de son cœur de métier absolument indispensable. Donc, il faudrait prendre en détail pour pouvoir y répondre.
Alors, la Cour des comptes note que la part d'audience de Radio France ici est en gros de 25-26%. Pour la BBC, c'est 55%, ce qui est la fourchette haute. On va voir qu'il y a encore plus haut dans cette même fourchette, puisque l'autre exemple cité par la Cour des comptes, c'est celui du Danemark. La radio publique danoise, c'est 70% de part d'audience. Bonsoir Quentin Dickinson.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
Correspondant de France Inter à Bruxelles. Alors la Cour des comptes est tombée amoureuse de la radio danoise, je ne sais pas pourquoi, mais expliquez-nous un peu ce qui se passe là-bas du côté de Copenhague et du Danemark.
Eh bien, monopole de la radio de service public dans ce pays, Danmarks Radio, DR en abrégé, propose 5 chaînes en modulation de fréquence, DRP1 généraliste façon France Inter, DRP2 qui combine en quelque sorte France Culture et France Musique, DRP3 pop rock et sport, DRP4 c'est le réseau type France Bleu avec 11 décrochages locaux, DRP5 enfin avec une programmation musicale nostalgique des 50s, 60s et éventuellement 70s. À cela s'ajoute une quinzaine de chaînes thématiques en numérique terrestre ou sur l'Internet, ainsi que la chaîne en onde moyenne destinée aux marins et la radio internationale en onde courte, équivalent à échelle réduite de notre RFI. A noter l'abandon sans doute surprenant de la radio d'information continue en FM, reportée sur l'Internet, l'abandon aussi de la diffusion en onde longue du célèbre émetteur de Kalundborg, bien connu des propriétaires de vieux récepteurs de TSF. L'ADR est piloté par un conseil d'administration de 11 membres, dont le président et deux autres sont nommés par le ministre de la Culture, 6 par le Parlement et 2 sont élus par le personnel. Le conseil d'administration choisit le directeur général et les cadres de direction. Périodiquement, les politiques de droite se plaignent d'un parti pris supposé de gauche de la part des journalistes de l'ADR, ce qui n'arrive évidemment nulle part ailleurs.
Effectivement, Quentin, nulle part ailleurs. Donc tout va bien hein, au Danemark.
Oui, enfin, tout allait pour le mieux dans la meilleure des radios scandinaves, jusqu'à ce que, en 2004, les dirigeants de l'ADR soient saisis d'ambitions immobilières. En 2009, les radios et les télévisions déménagent donc de la vénérable maison de la radio de Copenhague vers un nouveau quartier proche de l'aéroport. Ici s'est édifiée la gigantesque DR Buen, la cité de la DR, 133 000 mètres carrés, due à l'architecte Jean Nouvel. En cours de construction, les coûts ont explosé, notamment en raison de l'incorporation d'une aile hébergeant 4 salles de spectacle pour un total de 2200 places, facturées 250 millions d'euros. Résultat, la réduction du budget de fonctionnement de l'ADR, la suppression de 300 emplois, dont la quasi-totalité du service des sports, la revente des droits sportifs télévisuels, la mise en vente des salles de concert et la révocation ou la démission des principaux dirigeants de l'ADR. Dans ce domaine de l'audiovisuel, il y a certainement des enseignements à tirer de l'exemple danois auxquels ont été sensibles les deux membres de la Cour des comptes qui se sont déplacés à l'étranger. Mais toute prestation de service public a son coût et là, il n'est pas certain que les 65 millions de Français qui acquittent une redevance audiovisuelle annuelle de 136 euros aient envie de décaisser 320 euros chaque année comme le font les 5 millions et demi de Danois.
Alors dites-nous un mot, puisqu'on vous tient, Quentin, du Benelux. Quelle situation de l'audiovisuel public dans les trois pays ?
Alors effectivement, la RTBF a été portée au pinacle par le rapport de la Cour des comptes.
Elle aussi.
Et elle aussi, oui. Mais pendant longtemps, il faut bien voir que, comme ses consoeurs du service public néerlandophone, la VRT, et germanophone, ça existe aussi en Belgique, la BRF, la RTBF souffrait d'une lourdeur administrative et d'une intrusion permanente des partis politiques dans son fonctionnement. L'audience, elle, eh bien, elle diminuait d'année en année jusqu'à l'arrivée de l'actuel administrateur général, c'est l'équivalent de notre PDG, Jean-Paul Philippot, pas vraiment du sérail, mais qui venait de sauver de la banqueroute les hôpitaux de Bruxelles. La gestion sous son autorité, la gestion de chaque activité a été méticuleusement peignée, les redondances inutiles supprimées, les compétences internes promues et des talents extérieurs débauchés chez le concurrent belge du groupe RTL, le tout en un temps record. Surtout la couleur d'antenne et le public cible des 4 chaînes de radio ont été repensées avec des résultats d'audience quasi immédiats qui, de l'avis général ici, ont donné un nouveau sens à la radio de service public, le tout avec une rédaction commune radio et télévision. Un bémol cependant, la RTBF et la VRT s'apprêtent à démolir leur cité commune de la radio-télévision
allez,
et à en reconstruire
encore
une autre. On espère que les coûts seront mieux maîtrisés qu'ailleurs. Alors rapidement, chez les deux autres pays du Benelux, les voisins du Nord, aux Pays-Bas, Eh bien, ils ont un service public qui continue à être organisé en société de production liée à des cultes religieux ou à des partis politiques, seules les émissions d'information étant communes et indépendantes. C'est un exemple intéressant, mais finalement assez inexportable. Enfin, au Luxembourg, les chaînes locales de la compagnie luxembourgeoise de télédiffusion, mieux connue sous le nom de groupe RTL, ont cédé leur statut de service public à la petite mais dynamique radio 100,7, sorte de mélange de France Inter, de France Culture et de France Musique.
Merci Quentin Dickinson. Et même question à Cécile Méadel, professeure de sociologie à l'École des Mines de Paris. Une réaction à ce paysage audiovisuel public que vient de décrire Quentin Dickinson à la fois au Danemark et au Benelux?
On voit qu'il y a des erreurs de management dont malheureusement la France n'est pas exempte. Et le fait, le déménagement de la radio danoise évidemment est tout à fait impressionnant. On se demande jusqu'à quel point on fait la même erreur en France. Alors, est-ce que c'est une des spécificités? Tout à l'heure, vous demandiez quelle était la spécificité du service public. Est-ce qu'un mauvais management est la spécificité du service public? J'espère que non. Mais là, en l'occurrence, il y a quand même eu des erreurs.
Puisqu'en Belgique, un manager est venu des hôpitaux qu'il avait réformés pour réformer l'audiovisuel public.
Moi, je connais l'histoire de la Belgique il y a très longtemps, mais il y avait un système qui était complètement intenable parce qu'il fallait répartir les postes en fonction de critères diversifiés, en fonction de critères politiques, de critères religieux, de critères linguistiques et de critères locaux. Ce qui fait que quand vous vouliez engager un flûtiste, il fallait qu'il soit protestant, habitant à tel endroit, de telle partie politique, etc. Bon, on caricature, mais c'est vrai que le service public belge n'était pas en très bon état.
Allez, on reste en Europe, direction Berlin. À quoi ressemble donc l'audiovisuel public allemand? Correspondance de Nathalie Versieux.
Die Nachrichten des Tages. Heute mit Matthias Vornoff.
L'audiovisuel public allemand est relativement épargné par la crise. Deux chaînes dominent le paysage, la RD et la ZDF, qui regroupent les contributions de toutes les chaînes régionales. Avec quelques 6000 salariés et un budget de 8,5 milliards d'euros, l'audiovisuel public allemand est un mastodonte bien rodé, alimenté par l'une des redevances les plus chères d'Europe, 200 euros par an et par foyer, obligatoire pour tous depuis fin 2013. La publicité, 300 millions d'euros par an, est très réglementé, 12 minutes par heure au maximum et pas après 20 heures. Les programmes sont de qualité. Revers de la médaille, les chaînes publiques allemandes souffrent du vieillissement de leur auditoire. Sur tous les segments d'audience, les chaînes privées RTL ou ProSieben sont passées en tête, sauf chez les plus de 50 ans.
Nathalie Versieux à Berlin, et cette question du vieillissement de l'audience qui est pointée également pour la radio publique française par la Cour des comptes, c'est l'un des traits des auditeurs des radios publiques, en tout cas ça semble être le cas très nettement en France.
Oui, c'est le cas dans beaucoup de pays où effectivement le type de programmes qui sont proposés par les salles du secteur public intéresse plus les personnes d'un certain âge. Alors ça, on pourrait dire après tout, ça fait une des clés de répartition, c'est qu'en vieillissant, on s'intéresse plus à des contenus plus structurés, peut-être un peu plus fouillés, etc. Mais je pense que c'est pas complètement satisfaisant et qu'en particulier, je crois qu'il faut s'interroger sur la raison pour laquelle la radio fait moins rêver aujourd'hui les jeunes, alors qu'il y a dans la radio des tas d'ingrédients dont ils usent et abusent et dont ils raffolent, la musique, l'autoproduction, etc. Et on voit bien d'ailleurs dans les propositions de radio, quand le CSA ouvre un appel à candidature pour lancer une nouvelle radio, finalement on n'a plus tellement de propositions de jeunes ou de propositions nouvelles ou de propositions innovantes. Et je crois que la radio, et en particulier la radio de service public, doit absolument s'interroger sur comment faire pour faire à nouveau rêver les jeunes, alors que ce travail sur le son, c'est forcément quelque chose qui les intéresse énormément.
Et la presse écrite a aussi ce travail à faire, puisque son lectorat est à peu
et
près...
Dans le même état.
Voilà,
dans
le même état. Je dirais pas dans le même état, mais à le même âge, en tout cas.
Non, et en plus, alors même que les jeunes n'arrêtent pas de lire et d'écrire. Contrairement à ce qu'on dit. Ils passent leur temps à lire et à écrire sur Internet, ils passent leur temps à faire des jeux avec la musique sur Internet, et ça marche pas.
Alors, pour finir notre petit tour d'Europe et du monde, le Canada Radio-Canada, qui éprouve beaucoup de difficultés depuis plusieurs années, notamment des audiences en baisse, des restrictions budgétaires, du coup des licenciements massifs. Bref, la société d'État qui diffuse et la radio et la télévision ne sait plus trop à quel sein se vouer. Elle a pourtant joué un rôle très important tout au long des années 50, 60, 70 pour donner une unité au Canada, comme nous l'explique notre correspondante sur place à Montréal, Pascal Guéricolard.
Ici Radio-Canada.
Pendant longtemps, ces programmes télé et radio diffusés d'une côte à l'autre de cet immense pays ont symbolisé ni plus ni moins que l'identité nationale. Imaginez que même isolés au fin fond de l'Ouest canadien très anglophone, des communautés francophones avaient quand même accès à des émissions de radio et de télé dans leur langue, dont une bonne partie produite localement. Idem pour les anglophones au Québec, où le français est la langue officielle. Sauf qu'entre-temps, la multiplication des chaînes câblées, le numérique et tutti quanti a complètement bouleversé le paysage audiovisuel. Depuis une décennie, Radio-Canada n'en finit plus de se transformer et surtout de perdre des plumes. Fini la production maison de feuilletons télé. La station radio consacrée à la culture ne s'occupe plus que de musique et elle vient de cesser l'enregistrement et la diffusion de concerts d'orchestre. Côté information, le nombre d'émissions diminue drastiquement et certains journaux régionaux télé passent d'une heure à 30 minutes. Tous ces changements s'expliquent essentiellement par un désinvestissement important. D'abord, les revenus publicitaires ont fondu comme neige au soleil ces dernières années, avec l'explosion de stations télé sur le câble et l'offre sur tablette, téléphones intelligents, etc. Mais surtout, le gouvernement diminue son budget depuis plus d'une décennie en dollars constants. En moyenne, la part de chaque Canadien consacrée au financement de la société d'État n'est même pas la moitié de ce que consacrent les Italiens, les Allemands ou les Français à leur télé ou à leur radio publique. En 2 ans, par exemple, Radio-Canada a dû absorber un peu plus de 190 millions d'euros de compression et couper 1300 postes. D'ici 5 ans, la société d'État devrait avoir perdu 25% de ses employés, un mouvement amorcé depuis une dizaine d'années. Tout cela a bien sûr un effet sur l'offre de télévision et de radio publique disponible pour les Canadiens. À la radio, par exemple, plusieurs émissions de la journée repassent une deuxième fois à partir de 20h. Au fil des ans, Radio-Canada a regroupé ses entités télé, radio, web au sein d'une même rédaction. Résultat, un même reportage fait pour la télé, par exemple, passe parfois tel quel à la radio. Ça le rend un peu comique quand l'interlocuteur invite le journaliste à regarder la scène derrière lui. Tout ça n'est quand même pas forcément négatif. Radio-Canada déploie beaucoup d'efforts pour rester dans la course numérique et rester un acteur de référence en matière d'information. Je vous invite à écouter Claude Bernatchez, animateur de la tranche matinale de Radio-Canada dans la ville de Québec. Un quart de siècle de micro public derrière la cravate.
On continue parce que les compressions budgétaires sont importantes de couper des postes. On vient d'avoir une nouvelle vague encore la semaine dernière. Et en même temps, on annonce quelques embauches pour pouvoir développer des nouveaux produits qui sont diffusés sur cette nouvelle plateforme. On sent la crainte de passer à côté du virage numérique et de la façon dont est consommée l'information, par exemple, aujourd'hui, à travers les médias sociaux puis à travers le téléphone. Ma crainte par rapport à ça, c'est qu'on investit et on se préoccupe beaucoup de la diffusion du contenu et du nouveau contenu, mais est-ce qu'on a encore la capacité de produire un contenu de qualité, accessible, disponible aussi pour tout le monde?
Les prochaines années vont donc être déterminantes pour le futur de Radio-Canada. Ses artisans tentent d'ailleurs de mobiliser les citoyens autour de cet avenir, à travers notamment des sites comme les Amis de Radio-Canada.
This is CBC. Voilà donc Pascal Guéricolard au Canada. Ce petit tour du monde montre qu'il y a beaucoup de points communs avec certaines des revendications qu'on a pu entendre avec Radio France. Beaucoup de contraintes objectives aussi qui pèsent sur les audiovisuels publics. Ont-ils malgré tout un avenir tracé? Je ne dis pas un avenir simple, mais au moins un avenir possible et une place quand même certaines dans les paysages audiovisuels.
Ce qui est sûr, c'est que dans l'histoire, il n'y a jamais aucune technologie de communication qui a tué ses prédécesseurs. Donc la radio, au moins, elle a vraiment encore sa place. Et dès lors que la radio a sa place, la radio de service public a sa place. Elle est dans une crise qui est forte, qui est importante, qui va la restructurer. Mais il apparaît déjà de nouvelles façons d'écouter la radio. Écouter en streaming, écouter en podcast, etc. Et on va inventer, avec le mélange des médias, on va inventer des façons nouvelles de faire de la radio. Et je pense qu'on est déjà au début de cette transformation-là. Donc on peut espérer, ça va être douloureux, ça va être un peu long, ça va être un peu compliqué, mais je pense qu'on peut largement espérer de la radio publique.
Bon, on aura encore du boulot donc comme journaliste de radio et vous comme historienne des médias. Merci beaucoup Cécile Méadel. Je rappelle que vous êtes professeure de sociologie à l'École des Mines de Paris, historienne et sociologue des médias au Centre de sociologie de l'innovation. 18h44, vous écoutez France Inter. À suivre Éric Valmire au Kenya. Arnaud.
Thanks so much for that report.
Ça s'appelle du direct et ça s'appelle une erreur. Je pensais qu'on allait passer un peu de musique partout ailleurs, donc au Kenya. Stupeur, Éric Valmire, bonsoir.
Bonsoir Nicolas.
Après le carnage de l'université de Garissa.
Les Africains sont choqués, pas seulement parce qu'il y a eu 148 morts et qu'un campus a été attaqué, mais ils sont choqués aussi par le peu de réactions. La communauté internationale est absente. Qu'est-ce qu'on a eu comme réaction à part celle indignée du pape dans sa bénédiction Urbi et Orbi ? Rien. 11 chefs d'État africains sont venus défiler à Paris le 11 janvier après les attentats contre Charlie. Même pas un représentant de l'Union européenne, lors des 3 journées de deuil national décrétées au Kenya. Il y a là quelque chose qui est presque indécent. Un campus attaqué, 148 étudiants tués. On imagine la même chose aux États-Unis, on serait en breaking news. Mais pendant 15 jours, là on a quelques éditos, quelques reportages. Et pourquoi ? Parce qu'on est aussi dans un week-end de Pâques où il n'y a pas une très grande actualité. Donc il y a là quelque chose qui prend un peu aux tripes pour tout cet ensemble de raisons. Et il n'y a qu'une seule, une seule réaction qui a été forte, c'est celle finalement de l'Agence universitaire de la francophonie qui a décrété s'en prendre à l'université, c'est s'en prendre à la jeunesse, au savoir, aux lumières et à l'avenir d'un pays. Parce qu'à travers le monde, ce sont en fait tous les milieux universitaires qui sont affectés, le symbole même de l'éducation qui est visé. Les faits, jeudi à l'aube, un commando de 4 terroristes Shebab prend d'assaut le campus de Garissa, surprenant la plupart des étudiants dans leur sommeil.
Nous n'avons pas ouvert, mais ils ont tiré à travers les fenêtres. Nous étions au sol, donc ils n'ont pas pu nous toucher. Je les ai entendus dire, nous sommes venus pour tuer et être tués. C'est ça qu'ils disaient.
Le commando tue les deux vigiles de l'entrée du campus. Une quinzaine d'étudiants entourent les bâtiments. Canarde ordonne aux étudiants de sortir, leur promettant la vie sauve. Mais dehors, ils font le tri. Les jeunes sortent main en l'air, d'un côté les musulmans, de l'autre les chrétiens. Les chrétiens sont jetés à terre puis tués au fusil d'assaut à bout portant. 142 jeunes, 6 autres personnes prises sur le campus, ainsi assassinées, avant que les chebabs ne soutiennent un siège de 12 heures contre les forces de sécurité. À la fin de la journée, quand l'armée kényane mène une offensive fatale, les terroristes font exploser leurs ceintures.
But unfortunately, we also lost quite a sufficient number of lives.
C'est d'une voix émue que le ministre de l'Intérieur du Kenya a annoncé que le bilan de l'attaque de l'université de Garissa était particulièrement lourd. Des tirs nous ont réveillés, dit cet étudiant. Nous avons couru pour nous cacher, nous avons dû sortir et nous terrer dans un champ. Heureusement pour nous, car d'autres camarades n'ont pas pu le faire et ont été pris en otage. L'université de Garissa est située dans l'est du pays, à 200 km environ de la frontière somalienne, d'où sont venus les djihadistes d'Al-Shabaab. Les militants islamiques ont pris un nombre indéterminé d'otages, séparant les chrétiens des musulmans. Mais plusieurs étudiants ont quand même réussi à s'enfuir et à trouver refuge ailleurs. Plusieurs d'entre eux ont été blessés, dont certains grièvement. Cette offensive est la plus sanglante jamais lancée par le groupe islamiste contre le Kenya.
Un reportage de Radio-Canada, c'est la pire attaque que le Kenya a connue dans son histoire. Les islamistes Shebab, qui étaient parvenus à déstabiliser la Somalie et occuper Mogadiscio, y suivent désormais sur le terrain de lourdes défaites. Chassée de la capitale, défaite militairement, l'organisation cherche donc à exister par des actions terroristes d'envergure. Une des plus grandes spécialistes de ce dossier, Claire Ménial, grand reporter au magazine Le Point.
Les Shebab maintenant s'en prennent à l'étranger puisqu'ils ont perdu énormément de terrain militaire en Somalie, leur pays, depuis 2007. En 2007, l'Union africaine a lancé une mission armée qui s'appelle la MISON, African Union Mission for Somalia, qui leur a fait perdre énormément de terrain. Ils se sont donc rabattus sur des attaques terroristes, soit à Mogadiscio, soit à l'étranger. Ces attaques, tout comme les menaces actuelles, ont une visée, c'est une visée médiatique qui sert à entretenir l'image des Shebab, puisqu'ils sont militairement affaiblis.
C'est vrai que depuis l'engagement du Kenya aux côtés des troupes de l'AMISOM, les Shebab ont multiplié les actions le long des 700 km de frontières, notamment à Mombasa, principal port d'Afrique de l'Est. On se souvient aussi de l'assaut lancé contre le centre commercial de Nairobi en septembre 2013, 68 morts. En revanche, ont été nettement moins médiatisés les raids sanglants contre des villages de la côte kenyane. L'été dernier, 96 morts, ou encore le massacre d'enseignants, passagers d'un bus à Mandera, 28 morts, 36 ouvriers tués récemment. Au total, Nairobi a enregistré 135 attaques dans le pays avec un bilan qui avoisine les 200 morts. La finalité des Shebab est de générer l'instabilité au Kenya, d'une part peser sur les autorités et l'opinion publique pour que les soldats kenyans se retirent de Somalie et de l'autre étendre le mouvement djihadiste, enrôler de jeunes kenyans dans leur rang au nom du djihad. Et la misère, le chômage des jeunes, la corruption des élites représentent toujours un terreau. Qui plus est, le commanditaire de cette attaque même serait un ancien enseignant d'une madrasa locale, un lycée d'enseignement islamique de Garissa, Mohamed Kuno, aurait rejoint les Shebab. Nationalité kenyane, mais ethnie somalie comme la majorité des habitants de l'est du Kenya. La réponse des autorités kenyanes face à la menace terroriste apparaît donc inadaptée. Cette idée d'un mur érigé à la frontière somalienne ne fédère pas l'unanimité à Nairobi. L'idée avait déjà été énoncée, elle n'est pas nouvelle. Mais là, on parle carrément de lancer officiellement le chantier. De l'autre côté, à Mogadiscio, bien que délogé en 2011, les Shebab continuent de multiplier les attentats suicides contre les institutions naissantes, contre la présidence, les services de renseignement, des députés individuellement visés. Et outre le Kenya, Nicolas, ces Shebab portent leurs actions terroristes sur le sol d'autres pays engagés aux côtés de l'Union africaine. C'est le cas de l'Ouganda. Est encore dans toutes les mémoires le double attentat dans des restaurants à Kampala en 2010, 5 ans déjà, 76 morts, on n'a pas oublié. Mais ces attentats, bien que spectaculaires et meurtriers, représente le seul moyen de visibilité des groupes terroristes Shebab, défaits militairement, politiquement. Ils sont acculés, ils seraient aujourd'hui 5000 et les pays visés par les attentats veulent éradiquer donc ce groupe au plus vite. Le président kényan a d'ailleurs promis une récompense de 200 000 euros à toute personne localisant Mohamed Kuno.
Éric Valmire, merci. Il est 18h51.
Un jour dans le monde, sur France Inter.
Et rendez-vous dans le World Wide Web ce lundi avec Frédéric Carbone, correspondant à Washington. Bonsoir Frédéric.
Bonsoir Nicolas.
Allez, musique pour commencer avec le lancement d'une alternative à Deezer, à Beats, à Spotify, qui plus est une alternative People.
Et qui s'appelle Tidal. Elle existait déjà de façon confidentielle. Mais effectivement, avec les nouveaux propriétaires, difficile de faire plus glamour. Il y a Jay-Z, Beyoncé, Madonna, les Daft Punk, bref, des dizaines de Grammy Awards qui se mettent ensemble pour faire valoir les droits des artistes. Et depuis ce matin, vous avez le premier titre original enregistré spécialement pour cette nouvelle plateforme. On l'écoute. Vous avez reconnu Nicolas ?
Ah, j'ai reconnu du sirop, ouais, du miel et du sucre. Hein.
Ah ben, vous avez reconnu une balade amoureuse de Beyoncé dédiée à son Jay-Z.
Ah, c'est ça, ça l'amour.
C'est un peu le couple royal, hein, les William et Kate américains. Le titre s'appelle « Die with you », mourir avec toi. L'idée, alors, c'est de contrer Spotify et le service que s'apprête à lancer Apple plus tard, des chanteurs comme Taylor Swift. Boycottent Spotify, lui reprochant d'être trop bon marché et de ne pas reverser suffisamment aux artistes. Là, avec Tidal, il y aura deux droits d'entrée. Un à $10 par mois pour une qualité sonore digitale de base et un à 20 dollars par mois pour une qualité CD. Pari risqué, investissement à hauteur de 60 millions de dollars, une paille quand même pour ces gens-là. Et Jay-Z, le vrai parrain de l'opération, on le sait, c'est un entrepreneur redoutablement efficace.
Et puis Frédéric, vous avez vu hier soir le nouvel épisode de la dernière saison de la série Mad Men. Je vous interdis d'en dire un mot. Mais à part ça, l'actualité des séries est richissime chez vous.
Comme tout le temps, parce qu'avec les séries américaines, mon bon monsieur, il n'y a plus de saison. Il y a du nouveau en permanence. Alors l'info traumatisante, elle vient un peu de David Lynch. Le réalisateur annonce qu'il se retire du projet Twin Peaks 20 ans après. Désaccord financier avec la chaîne Showtime. Peut-être s'agit-il d'un moyen de pression, c'est quand même la série la plus attendue. Sinon, dans les nouveautés, Nicolas, on peut signaler la première série dont les personnages principaux sont une famille asiatique-américaine, Off the Boat, comédie produite par ABC. Il y a également la série, on va dire, un peu post-Ferguson, American Crime, La police et la question raciale, avec une des Desperate Housewives, l'actrice Felicity Huffman. Et conseil maison, Bloodline, dernier produit Netflix, je sais pas si c'est sur le Netflix français, mystère familial dans les marais de Floride, Sissy Spacek et Sam Shepard pour incarner les parents, je vous en dis pas plus. Mais pour vous montrer à quel point les séries télé sont incontournables, je vous propose d'écouter le Poisson d'avril vidéo 2015 de Barack Obama.
Hello everybody. This is not Frank Underwood. This is Barack Obama. Happy April Fool's Day. Frank learned it from me.
Bon, il n'y a pas besoin de traduire. Je ne suis pas le président House of Cards, je suis le vrai président. Barack Obama qui a aussi convié pour discuter avec lui à la Maison Blanche le créateur de The Wire, série enseignée à l'université, d'ailleurs aux États-Unis comme en France. Et vous trouvez leur échange passionnant sur Internet.
Et allez, puisqu'on en parle, on va terminer avec la politique. Frédéric, pour la campagne présidentielle, YouTube, et The Place to Be. Voilà, je ne sais le dire qu'en anglais. Tout passe par là.
Comme dans les séries, en fait, avant l'annonce, il faut la bande-annonce. Voici par exemple Rand Paul, républicain, tendance libertarien, l'un de ses nombreux prétendants qui se sont promis de pas offrir un boulevard à Jeb Bush. Depuis hier, donc sur YouTube, il donne rendez-vous à tous les électeurs.
It's time for a new way, a new leader, and above all, it's time for a new president.
Bon, il est temps que l'Amérique ait un nouveau président. Ça ne fait pas encore un programme, en même temps c'est réel, hein. Il y aura un nouveau président, Barack Obama peut pas se représenter, Rand Paul détaillera son programme demain. Et pour en revenir aux séries, des fois quand même Nicolas, la réalité rejoint totalement la fiction, sachez que le seul opposant déclaré pour le moment à Hillary Clinton chez les démocrates s'appelle Martin O'Malley. Vous connaissez pas, ça vous dit rien?
Pas là tout
non.
de suite.
Moi je vous rassure, aux États-Unis il est pas très connu, sauf qu'il a longtemps été, là vous allez me voir venir, maire de Baltimore.
Ah,
et à ce
d'accord.
titre... The Boss. Il était un des... Eh ouais. Non, pas The Boss.
Ah non, pas The Boss.
The Wire.
The Wire.
Il était un des personnages secondaires, mais quand même, de The Wire.
Eh ben écoutez, merci beaucoup Frédéric Carbone.
The Boss c'est Chicago.
Ouais, The Boss c'est Chicago nous. Et celui qui a trouvé, c'est Anthony Bélanger. Merci Frédéric.
À bientôt Nicolas.
À bientôt.
Un pour tous pour un.
Merci Anthony Bélanger.
Vous attendez, vous allez beaucoup trop vite.
Plutôt heureux maintenant.
Eh oui, il a bossé quand même. Hein.
Sur France Inter.
Bonsoir Anthony.
Bonsoir Nicolas, bonsoir à tous.
On reste aux États-Unis où se développe, comment dire, une forme d'homophobie commerciale.
Ah oui, c'est assez étonnant. Alors on va commencer par donner un exemple hein, pour bien comprendre. Un fleuriste de l'État de Washington a refusé de vendre des bouquets de fleurs à un couple homosexuel qui se mariait. Alors pour ce refus de vente, il a dû payer en mars dernier une amende de 1 000 $. Or le fleuriste en question est profondément religieux et c'est pour cette raison qu'il a refusé la vente, son dieu lui interdisant de soutenir le mariage entre personnes du même sexe. Il a donc ouvert une page de crowdfunding, vous savez, sur internet, et en quelques jours il a récolté 85 000 $. Alors cette affaire qui apparaît comme ça petite, mais en fait n'est pas la dernière en date. Dans l'Indiana, un vendeur de pizza, lui, a refusé de livrer un mariage gay et il a aussi ouvert une page internet, recours à internet, et il a récolté 840 000 dollars cette fois. Alors, à quoi va servir cet argent? Eh bien, à payer les amendes, bien sûr, et puis les procès pour contester les amendes. On est aux États-Unis et aux États-Unis comme en France, il est interdit aux entreprises de refuser leur service à quelqu'un en se fondant sur la race, la religion ou les préférences sexuelles. C'est de la discrimination pure et simple.
Et donc, le problème est réglé?
Et non, mais non, bien évidemment, parce que ce sont les États-Unis. Encore une fois, c'est presque The Wire là aussi. Il existe là-bas des lois qui permettent à toute personne d'exercer une sorte de droit de retrait lorsque leurs convictions religieuses sont en jeu. Autrement dit, vous avez le droit comme personne hein, de refuser par exemple eh bien, de pratiquer un avortement ou encore de marier un couple gay. Si votre religion vous l'interdit, il faut alors retrouver eh bien, un autre médecin ou un autre employé d'état civil. Mais une entreprise,
n'est pas une personne. Donc, les lois sur la liberté religieuse ne s'appliquent pas. Vous me suivez, Nicolas ?
Parfaitement.
Bon, alors, jusqu'à ce que l'État d'Indiana, c'était il y a quelques jours, décide qu'une entreprise était bel et bien une personne morale en plus, et que donc, les lois sur la liberté religieuse s'appliquent. Non seulement cette loi a été votée par le Parlement de l'Indiana, mais elle a été approuvée et signée par son gouverneur, Mike Pence, c'était il y a quelques jours. Inutile de dire que depuis, la polémique n'a cessé d'enfler, et ce, dans tous les États-Unis.
Et dernière chose, je croyais quand même que le problème du mariage gay était réglé ou en passe de l'être aux États-Unis.
Alors voilà, bah exactement. Alors c'est bien de faire la remarque parce que vous croyez juste, Nicolas, au compteur aujourd'hui quand même, 37 États américains sur 50 reconnaissent et pratiquent le mariage gay. Et d'ailleurs, y compris l'Indiana. De plus, en juin prochain, on s'attend à ce que la Cour suprême le légalise et ce pour tout le pays. A priori, c'est donc game over pour les fous de Dieu américains. Ils ont perdu la partie comme en France et comme dans la plupart des pays occidentaux. Mais l'affaire d'Indiana montre que ce n'est jamais gagné. Comme pour l'avortement dans les années 70 et 80, le débat et la bataille juridique s'est donc déplacé sur le seul terrain qui leur reste, celui des convictions religieuses et de leur respect. Un terrain beaucoup plus difficile, beaucoup plus meuble à maîtriser. D'autant que la reconnaissance du mariage gay, eh bien elle a un fondement légal imparable dans une démocratie, à savoir l'égalité de tous devant la loi. Mais la liberté de conscience religieuse, elle, eh bien, elle est sujette à toutes les interprétations légales, ça dépend du juge. C'est donc parti pour des années de batailles judiciaires comme les États-Unis les adorent, avec juges, avocats et groupes de pression. Mais pour tout vous dire, je vous rassure, Nicolas, à la fin, comme dans les films ou les séries américaines, c'est à peu près toujours le gentil qui gagne, encore que.
Merci Anthony Bélanger.